Leucocélophobie. Ne fuyez pas. Je sais, c'est risqué de commencer un film par un mot aussi barbare. Leucocélophobie. C'est le mal dont je souffre. Angoisse de la page blanche.
Comment commencer pour contourner ce syndrome de la page blanche au nom si barbare? Comment commencer une dissertation, une émission, un livre, un film? Voilà la question posée par Lucie Laout dans son film Éloge de la rature, réalisé avec Stéphane Miguel. Car trouver la première phrase, le premier mot n'est jamais évident. Rarement définitif. Bonjour Lucie Laout.
Bonjour.
Votre film s'appelle Éloge de la rature et vous nous plongez dans les trésors de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et je parle de trésors parce que ça ressemble à quoi ? Une caverne d'Ali Baba de la littérature ou quelque chose comme ça, un peu plus ordonné.
Oui, un peu plus ordonné parce que les archivistes sont très ordonnés pour s'y retrouver. Mais en effet, à l'IMEC, c'est donc l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine dans lequel se trouvent les fonds de centaines d'écrivains contemporains qui sont venus déposer et demander à l'IMEC de s'occuper de leurs archives, donc de leurs manuscrits, de leurs correspondances, des fois même de leur bibliothèque pour les éditions, et qui vont demander à l'IMEC de les prendre en charge et de permettre aussi la transmission auprès des chercheurs et auprès des spécialistes, des gens qui veulent les étudier ou même d'une personne qui voudrait juste faire une recherche sur un auteur.
Alors, c'est un lieu qui a été créé en 1988, donc c'est relativement récent. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse qu'à la littérature contemporaine. On trouve les archives de qui ? De Marguerite Duras, on va en parler tout à l'heure.
Voilà, Edgar Morin, par exemple, qui est également dans le film. Violette Leduc, qui est également dans le film.
Jean Genet.
Éric Satie, qui est en fait la toute première fonds d'archives de l'IMEC, donc 1906, je crois, pour Éric Satie, les premiers documents. Et je ne sais plus le nombre exact, hein, mais il y a une centaine d'auteurs actuellement. Et tous les ans, de nouveaux auteurs déposent leurs fonds, des fois même de leur vivant, ou alors c'est les ayants droit. Voilà, il y a Michel Vinavert, il y a André Chédid.
18 km de rayonnage quand même.
Oui.
Et ça se trouve en Normandie, dans une ancienne abbaye. Donc c'est un lieu assez magnifique. Et donc ces brouillons, ces manuscrits, les notes de ces auteurs et de ces autrices témoignent souvent de la genèse du livre, du roman. Et on s'aperçoit qu'il y a donc beaucoup de ratures. Comme dans les cahiers d'écoliers, car les gamins de votre film ont bien compris l'intérêt de la rature.
Faire des ratures, ça aide à mieux apprendre.
C'est pour se poser des questions, des fois aussi, comme ça.
C'est bien de raturer, des fois, parce que aussi, Hugo, il a bien dit, ça nous apprend nos erreurs.
Si on rature trop souvent, c'est moche.
Pour moi, la rature, c'est bien, parce que si on a des répétitions, on peut trouver un rature, et après, on peut trouver un autre synonyme que... Par exemple, Jean Menet, si on a trop de mots Jean Menet, on peut raturer et on peut trouver un autre synonyme.
Lucie Laout, comment vous est venue cette idée de faire un film consacré à la rature et à l'éloge de la rature? Parce que souvent, on dit aux gamins, vraiment, il ne faut pas faire un pâté, pas de gribouillage, etc. Recommence. Non, vous ne dites pas du tout ça. Vous dites au contraire, la rature, c'est formidable.
Oui, la rature, c'est pas écrire bien, c'est pas forcément écrire beau au départ. En tout cas, c'est pas forcément faire quelque chose de soigné. Écrire bien la rature en est en fait l'emblème, le symbole, parce qu'en elle se trouvent toutes les métamorphoses du texte, toutes les bifurcations possibles, donc toute la richesse de la création littéraire. Et pour nous, la rature est le symbole de la vivacité d'une œuvre en train de s'écrire.
Mais de là, en faire un documentaire, c'est pas évident quand même.
Alors aussi, la rature, elle a cette petite chose qui était géniale pour nous, c'est que visuellement, elle est très belle et elle est très diversifiée parce que dans une rature, il y a aussi toute l'intimité de l'écrivain. Il y a son état psychique. Parfois, au moment, il peut y avoir sa colère, les façons dont c'est raturé. Il y a son goût aussi hein, pour le choix du papier, la façon de raturer. Des fois, c'est quand même très propre. Des fois, c'est très, 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 très dur. Et donc, c'est visuellement d'une richesse infinie. À chaque auteur, à chacun sa rature, sa façon de raturer, selon les moments de sa vie. En plus, c'est très particulier.
Et dans cette décision d'en faire un film, je pense que vous avez été aidé par Roland Barthes, grand écrivain, sémiologue, prof au Collège de France, un des plus beaux esprits de l'après-guerre, qui dit « la littérature, c'est la rature ».
Tout à fait.
C'est une phrase que vous citez.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de création littéraire et d'œuvre littéraire in extinction qui viendrait comme ça et qui sortirait d'un seul jet et qu'on ne retoucherait pas jamais. Il n'y a pas d'écriture instantanée. Une écriture, c'est toujours un travail, c'est toujours un processus et c'est visible dans la rature, ce processus. Les généticiens du texte qui vont travailler à partir des manuscrits pour essayer de remonter et de comprendre tous les processus d'écriture d'un écrivain vont disséquer les ratures, en fait, vont aller comprendre à chaque fois quelle métamorphose a eu lieu.
Et au tout début du film, vous faites un jeu de mots que je trouve absolument magistral.
Puisque... Stéphane Miquel qui...
C'est Stéphane Miquel, donc votre co-réalisateur, qui l'a trouvé. Puisque la littérature, peut se lire aussi en littérature.
Tout à fait.
C'est éclairant.
Oui, c'est éclairant. C'est parce que si le style qu'un écrivain va développer dans sa façon d'écrire peut se lire dans ses ratures. Et savoir se relire, les écrivains le disent, savoir relire son travail raturé, c'est aussi comme ça qu'ils apprennent. Qui trouvent leur style.
Grâce à votre film, Lucie Lahoute, on va donc plonger dans le secret de quelques manuscrits, voir le livre en train de s'écrire, mais l'on va d'abord découvrir une jeune artiste franco-suisse qui sort son premier album et a remporté la victoire de la révélation scène. C'est Yoa, Princesse K.O.
Oh non, c'est pas vrai, j'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête.
toujours.
Une révélation musicale, Yoa sur RFI, et un film documentaire à voir sur la plateforme de France Télévisions, Éloge de la rature, et c'est Lucie Laout, un film qui dit votre fascination, me semble-t-il, pour l'écriture et pour la littérature. Vous, la femme de cinéma, vous aimez passionnément la littérature, j'imagine.
Oui, moi et mon co-réalisateur Stéphane Nickel, on est tous les deux passionnés de littérature, et c'est un peu d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés sur un film que Stéphane Nickel faisait sur Gustave Flaubert et Madame Bovary, et plongé dans les manuscrits tel qu'on a pu le faire à l'IMEC, notamment, a été pour nous un vrai cadeau, parce que là, on rencontrait les auteurs dans une intimité.
Alors, vous évoquez Flaubert, ça tombe bien, parce que dans le film, il est aussi évoqué, même si son fonds d'archives n'est pas à l'IMEC, non, par définition, mais à la BNF. Et on comprend, parce que vous rencontrez un généticien du texte, alors vous allez me dire ce que c'est qu'un généticien du texte, que finalement, les écrivains reviennent toujours sur leurs manuscrits et que c'est un long processus. Au point final, ils peuvent revenir à la première phrase.
Jusqu'au dernier moment, ce qui s'est passé en effet pour Gustave Flaubert avec Emma Bovary. Et donc c'est Pierre-Marc de Biasi, c'est même un des fondateurs de la génétique du texte, qui est une discipline universitaire qui est née dans les années 80, qui est née de la volonté d'analyser toute la genèse de création d'une œuvre, plutôt que de uniquement analyser une fois terminée, et de se servir des archives, uniquement pour venir étayer une idée sur un texte. Là, on va vraiment tout reprendre, toutes les étapes de la création, tout ce qu'on dispose, en tout cas, autour d'un roman, par exemple, comme Emma Bovary.
C'est de l'archéologie, en fait.
C'est de l'archéologie. Et on part du départ et on analyse toutes les métamorphoses, donc toutes les métamorphoses chakratures, voir comment les choses ont évolué. C'est très, très technique, c'est très, très long. C'est fascinant, la passion. Et le temps qui est donné par ces gens-là, ces chercheurs-là.
Voilà. Et ce chercheur raconte comment Flaubert, toujours lui, a modifié la première phrase alors qu'il arrivait pratiquement à la fin de Madame Bovary.
En fait, d'abord, il modifie la dernière phrase. Il modifie la fin du roman. À la fin du roman, la fille d'Emma Bovary se retrouve seule, la petite Berthe se retrouve seule, sa mère est morte, son père est mort. Elle est confiée à la famille et la famille décide de la mettre à l'école publique au départ. Mais au dernier moment, Flaubert va durcir son propos et va l'envoyer à l'usine, ce qui est au 19e siècle, est vraiment une condamnation pour cet enfant à 13 ans d'aller à l'usine. Et au moment où il modifie la fin, il revient tout au début à la première phrase du film. Et là, il va introduire...
Du livre.
Ah, voilà, excusez-moi.
L'abscisse de la cinéaste.
C'est un très beau film, mais, voilà. Mais évidemment du livre de Flaubert. Et donc, de son livre, il va introduire le « nous », ce qui signifie quand même qu'en tant qu'auteur, dans une société, il s'implique comme responsable, peut-être. En tout cas, on peut émettre cette hypothèse, et c'est l'hypothèse que fait Pierre-Marc de Biasi, qu'il s'estime en partie responsable de ce qui arrive à cet enfant à la fin, qui est d'aller à l'usine, dans cette société capitaliste qui dévore ses enfants.
Et ça devient un roman politique. Enfin, ça donne une coloration politique à Madame Bovary.
Ce qui est déjà un roman politique pour plein d'autres raisons, mais là, ça va quand même accentuer, évidemment, ça.
Pierre-Marc de Biasi vous raconte cette histoire de Flaubert dans le film, mais il en revient aussi à l'étymologie du mot rature, qui est proche d'ailleurs de raclure, et c'est un mot utilisé par les joailliers.
La rature a eu un usage chez l'orfèvre qui cisèle une pièce en or, avec sa gouge, entre dans le métal, et ce sont les copeaux qui l'enlèvent, qui donne la forme à l'objet qu'il sculpte. Or, ces copeaux, c'est ce qu'on appelle des ratures. Mais ce que nous révèle cette étymologie, c'est que la rature elle-même, qu'il a fallu enlever, c'est encore de l'or. Il ne faut pas le jeter. C'est quelque chose qui, en soi, a de la valeur. Chaque rature, pour un écrivain, c'est un enseignement. Et chacun de ces enseignements fait progresser son style, son travail. Et d'une certaine façon, c'est grâce aux ratures que se constitue le style de l'écrivain. C'est l'or.
Le style, le rythme, c'est cela la littérature. À Limay, qu'on trouve, alors pas les archives de Flaubert, mais toutes les archives donc de Marguerite Duras, qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a notamment les versions, les 9 versions d'un texte qui s'appelle L'homme assis dans le couloir. C'est un très court texte qui a été publié en 1980, mais qui a poursuivi d'une certaine façon Marguerite Duras pendant 20 ans. Et on voit au travers de ces 9 brouillons comment le style de Duras s'impose et comment la phrase se précise d'une année sur l'autre, d'une version à l'autre.
Voilà, parce que c'est très beau à voir comme ça. D'abord, elle va gonfler, entre guillemets, par exemple, la description, ça va devenir très lourd au sens, voilà, description s'enrichit, puis après elle commence à nouveau à l'épurer jusqu'à ce style qu'elle a, qui est très épuré. Et il y a des moments de bascule aussi où elle va changer le temps. Par exemple, elle va tout passer au présent, ce qui rend quelque chose de beaucoup plus proche, de beaucoup plus actuel. Et aussi, elle va introduire un narrateur extérieur, quelqu'un qui regarde la scène et qui la raconte. Ça, c'est un moment vraiment clé. Donc, on analyse les 9 versions, ce que fait Sophie Bogart, la chercheuse qu'on a rencontrée à cette occasion. Et donc, on voit bien à quel endroit vraiment le texte prend corps, prend mystère et prend style.
Il y a donc les repentirs ou les tâtonnements des écrivains, mais il y a aussi les blancs de la censure. Et vous racontez un exemple qui est célèbre, qui est celui du premier roman de Violette Leduc. Alors, écrivaine qui n'est pas forcément très lue aujourd'hui, mais qui a été très importante en son temps, puisqu'elle était féministe, elle était très transgressive, elle a beaucoup parlé d'homosexualité, de sa propre homosexualité, et elle publie donc en 55 Ravage, premier roman, avec le soutien de Sartre et de Beauvoir. Mais alors là, hop, le premier chapitre disparaît à la première édition. Donc là, rature, c'est censure.
Là, c'est rature, censure de l'éditeur, 160 pages quand même, c'est quand même une énorme, et pour elle l'a vécu très très douloureusement. Ça l'a poursuivi très longtemps, elle le racontera dans d'autres livres après, dans d'autres livres autobiographiques. Et Sartre, Violette Leduc est quand même maintenant à nouveau lu, à nouveau étudié aussi. Et c'est très touchant de voir justement par le travail des chercheurs comme Mireille Brioude qui est venue nous parler de cette rature censure et de la violence qu'a subie l'écrivaine suite à ça. Grâce à son travail, on va réhabiliter le texte tel qu'il avait été pensé par l'écrivaine. On va réparer la rature censure. Et aujourd'hui, l'année dernière, a été publié Ravage intégralement, avec tous les passages qui avaient été ôtés, et pas du choix de l'écrivaine, pour le coup du choix de l'éditeur, pour des questions morales. Et aujourd'hui, on estime qu'on peut lire ça. Et d'ailleurs, dans la nouvelle édition dont Mireille Brioude a été la collaboratrice, toutes les parties ôtées par la censure sont colorées en violet et le texte tel qu'il avait été publié est en noir, ce qui permet vraiment de voir ce qui avait été choisi d'être tiré dans les années 60.
Et c'est le même éditeur, c'est Gallimard, qui censurait et qui publie aujourd'hui l'intégrale. Donc à Libex sont conservées toutes ces archives, mais l'institution accueille aussi des écrivains en résidence et dans le studio d'Arnaud Bertina, que l'on pénètre grâce à votre caméra, il y a des dizaines de pages scotchées au mur avec des ratures, des rajouts, des flèches dans tous les sens. C'est d'une certaine façon le spectacle de la métamorphose incessante du texte en train de s'écrire.
Le premier jet, moi, ne m'intéresse pas du tout. C'est un truc que je répète depuis longtemps. Le premier jet, même des fois, me dégoûte un petit peu, ou en tout cas, je suis très pressé de passer à autre chose. En fait, l'écriture commence quand, à partir de cette impulsion de départ, il y a tout un monde qui se développe et qui part à la dérive, quoi. Et c'est cette dérive qui fait l'écriture, qui fait la littérature, quoi. C'est au fil du voyage, on voit des bifurcations, on décide d'emprunter un itinéraire bis, on voit une route de campagne qui quitte la nationale, et puis on se dit que tiens, par là, ça va être beaucoup plus beau que de rester sur la nationale. Donc on explore, peut-être c'est une impasse, et peut-être au contraire, effectivement, ça débouche sur un paysage magnifique, etc. Et moi, je trouve ça merveilleux.
Du bonheur de l'écriture, alors ce qui est intéressant, Lucie Laout, dans votre film, c'est de voir que Bertina, qui écrit comme tout le monde, j'imagine, avec un ordinateur, a besoin du rapport physique de la page, puisqu'il les scotche, il les imprime, il les scotche, et sur le mur, il continue à travailler la phrase et le roman, en fait.
Oui, parce qu'il a, besoin en effet de physiquement éprouver les métamorphoses de son texte. Donc il les scotche, il les re-rature, il les rentre dans l'ordinateur à nabo, il les réimprime, il les re-scotche, il re-rature et raconte que chez lui, il y en a partout sur les murs, sauf dans la chambre de sa fille, qui n'envahit pas encore. Mais il a besoin de vivre dans la proximité de son texte et de la... de ces métamorphoses en permanence.
Est-ce que vous pensez que le numérique, donc ces ordinateurs et ces appareils que nous avons à portée de main toute la journée, notamment les téléphones portables, va raturer définitivement les ratures ?
Alors la rature graphique, physique, celle qu'on a vraiment sur le manuscrit, oui, elle disparaît en partie par l'écriture numérique, si elle n'est que numérique. Mais par contre, ce que nous dit Pierre-Marc de Biasi, hein, c'est que si on conserve le disque interne de la machine, on a toutes les versions, mais au-delà même du manuscrit. C'est-à-dire qu'en plus, avec l'intelligence artificielle, on pourra vraiment remonter à chaque nanoseconde toutes les métamorphoses, tous les effacements, les retours. Mais quand même, il y a une part de poésie, une part de beauté et surtout d'intimité avec l'auteur qu'on a dans le manuscrit qu'on risque de perdre.
Ça veut dire que si Marcel Proust avait écrit sur un ordinateur, on aurait pu savoir exactement à quel jour et à quelle heure il a écrit sa première phrase qui est l'une des plus célèbres de la littérature, « Longtemps, je me suis couché de bonheur ».
Exactement.
Sauf qu'il n'écrivait pas sur un ordinateur.
Tant mieux.
Mais que vous racontez que justement cette première phrase n'était pas du tout celle qui était prévue initialement.
Non, elle était beaucoup plus longue. Elle faisait bien 10 lignes. Et là, c'est vraiment au dernier moment. C'est vraiment, il reçoit donc ce qu'on appelait le tapuscrit, qui était tapé à la machine par quelqu'un d'autre, hein, à partir de ses manuscrits à lui. Et donc, et c'est juste avant publication qu'on lui dit, attention, dernière épreuve avant que le livre soit édité. Qui va choisir de rayer entièrement ces 10 premières lignes pour remplacer par...
Longtemps, je me suis couché de bonheur. Débrouillons des écrivains aux mots utilisés par les jeunes. Tout est à conserver. Et en l'occurrence, pour les jeunes, c'est le job de Lucie Bouteloup, toutes les semaines, dans De Vive Voix.
Façon de parler, hein. Façon de parler.
Façon de parler.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, bonjour Lucie.
Aujourd'hui, ah oui, deux Lucie dans le studio, formidable. Aujourd'hui, façon de parler, c'est les jeunes qui vous intéressent.
Et oui, si vous ne voulez pas avoir l'air d'un cassos ou d'un daron quand vous parlez, Pascal, eh bien je vous propose une petite leçon de vocabulaire façon 2025 avec Aria, Anaïta, Lola, Manon et Gaël, des collégiens et des lycéens qui viennent de Paris et de Nantes. Un petit conseil, prenez des notes si vous ne voulez pas tout whip in, ça veut dire pas tout mélanger, quoi.
Ça dit quoi ?
Tranquille.
Moi je dis salut, c'est tout. Comment ça va mon ref ?
Alors quand ça va bien, qu'est-ce qu'on dit ?
Tranquille.
Ouais, c'est carré.
C'est carré, pourquoi c'est carré ?
C'est carré, ça veut dire un peu. Tout est aligné quoi, tous les axes sont alignés, c'est symétrique quoi. Tout va bien, c'est carré, c'est en ordre.
Quand ça va pas bien en mode triste, on peut dire ouais, je suis dans un zion.
Dans un zion ?
C'est genre en mode je suis dans un autre monde.
Moi je peux dire soit je suis dans le mal. On a des problèmes ou sinon on dit c'est la D, genre...
C'est la D comme c'est la déprime.
Non, c'est la décadence, c'est ça.
Ouais, la décadence.
Et toi, Manon ?
Moi, je dis je suis pas à fond.
On dit par exemple, bah ça va pas parce qu'il y a quelque chose qu'il y a dans notre vie qui est gaze, genre.
Gaze, ça veut dire quoi ?
Bah gaze, ça veut dire nul.
Mais gaze comme merguez ?
On dit ça à Marseille. Genre on dit, ouais, t'es une merguez, en mode, t'es nul.
Moi aussi, il y en a qui disent ça.
À Nantes, on dit ça ?
Oui, surtout des garçons, ouais, ils disent, ah, c'est une merguez.
C'est un nul.
Oui, ouais, exactement.
Moi, c'est comme éclater au sol.
Éclater au sol, toi, tu dis ça aussi, Aria ? Je suis éclaté au sol ?
On peut le dire, je le dis moins, mais ça se dit toujours, ouais.
C'est passé de mode ?
Ouais, ouais, vraiment.
Et par exemple, s'il y a un film qui n'est pas hyper intéressant ou s'il est vraiment... horrible, on peut dire il est éclaté au triple au sol.
Ah oui, carrément, dans les profondeurs, quoi.
Je sais pas si c'est encore à la mode, mais genre, nous, on le dit encore avec mes potes. Quand tu dis « Oh, le pauvre », on dit « miskin ». Si, par exemple, il tombe, bah, on peut dire « Ah, miskin, il est tombé par terre ».
Alors, miskin, ça vient d'où ?
La phrase, c'est un mot arabe à la base.
On l'utilise souvent quand, par exemple, quelqu'un nous fait de la peine.
On dit par exemple, Miskine, tu t'es fait recal, t'as perdu de l'aura.
En fait, c'est un truc spirituel que tu dégages rien qu'en te voyant. Mmh. Et par exemple, si tu tombes par terre dans la rue, devant tout le monde, c'est à la cantine, tu fais tomber ton plateau, on dit tu perds de l'aura, c'est-à-dire tu perds en crédibilité, quoi.
Et après aussi, on dit par exemple, t'es tombé, tu dis moins 100 aura. Par contre, tu t'es fait recal plus la meuf, elle t'a taillé.
La meuf, elle t'a taillé, donc la fille, elle t'a critiqué,
ouais,
quoi.
Elle t'a critiqué, bah là, tu dis moins 1 000 aura. Enfin, en fait, c'est comme si on avait un peu des points au-dessus de notre tête, et après, ça fait un compteur.
Quelqu'un qui a gagné en crédibilité, qui dégage de l'aura, qui a plein de qualités, comment on pourrait le qualifier? Est-ce qu'il y a une façon de parler de lui?
Un GOAT. En anglais, c'est greatest of all time. Et
le meilleur de tous les temps.
Et en fait, quand on dit par exemple, lui, c'est le GOAT, quoi, c'est-à-dire c'est le meilleur.
On dit ça pour les filles aussi?
Non, ça c'est que pour la
plupart.
Bah non. Oui. Ah si, on peut dire si c'est la GOAT, ouais.
Oui. Moi, je dis surtout quand il est fort, je dis ah, il est chaud.
Il est chaud. Et alors pour les filles, vous dites aussi « je suis chaud ». Toi, Anaïta, tu dis « je suis chaud » alors que t'es une fille. Tu dis pas « je suis chaude ».
Ou sinon, je dis « oh, je suis trop chaude ».
Ouais, je suis bouillant pour sortir, c'est grave OP. Enfin, OP, c'est comme carré.
OP comme opérationnel, en fait.
Ouais, voilà. OP, c'est plus pour une proposition. Tu dis, par exemple, t'es chaud d'aller faire un foot et là, tu dis « OP ».
Il y a quoi d'autre comme expression alors en ce moment?
Nous par exemple, on peut dire qu'il y a un chaour dans notre classe, il change de crush toutes les semaines et dès qu'il se fait prendre un râteau, il va revenir vers une autre fille et lui redemander. Ouais. Et il peut être en crush sur toutes les filles.
Alors le crush, c'est le coup de cœur, mais chaour, ça vient de quoi?
Charonia, non?
Ah si, peut-être. Donc c'est celui qui se jette sur n'importe qui en fait.
Oui. Rien ne l'arrête.
On dit BDG aussi.
Et c'est quoi BDG?
C'est en fait c'est les garçons qui aiment les filles, quoi.
BDG, dit, c'est BDG. Quoi?
C'est bandeur de gadji.
Oh la gênance.
Donc, on se pète.
On se pète. Ok, ça veut dire quoi on se pète?
On se capte, mais pas en mode partir. On se reverra pas, mais on se reverra.
Bon, bah merci pour la mise au point.
Et on s'attrape, on se reverra, quoi.
C'est ciao.
Bon, bah c'est ciao tout le monde.
Ciao.
Merci Lucie, donc on va s'attraper. J'ai compris que vous êtes quoi, la GOAT, c'est ça?
Ah bah merci beaucoup, absolument. Ah, bon, the greatest of all time, absolument. Je prends.
Lucie Laout, est-ce qu'il y a des futurs grands écrivains parmi ces adolescents? Et est-ce que les écrits garderont trace de ces expressions orales qui passeraient à l'écrit? Parce que finalement, c'est un peu le sujet de votre documentaire, Éloge de la rature. C'est comment la langue est vivante, sous toutes ses formes.
Complètement. Moi, je l'espère. En effet, que toute écriture et toute expressivité est bonne à transmettre, à travailler.
Et donc, il faut dire à ces jeunes gens qui peuvent envoyer, s'ils écrivent un jour, leur livre à l'IMEC, parce que c'est une volonté, c'est une décision de l'écrivain, c'est pas forcément un automatisme, contrairement
à... C'est une décision soit de l'écrivain, soit des ayants droit de l'écrivain, qui permet en effet aux générations futures et aux chercheurs de pouvoir se réapproprier ces textes et de pouvoir travailler autour.
Mais je crois qu'il y a quand même de plus en plus d'écrivaines et d'écrivains qui sont intéressés à céder leur fonds d'archives à cet institut Mémoire de l'édition contemporaine. Ouais. Merci beaucoup Lucie Laout, Éloge de la rature, le film que vous avez réalisé avec Stéphane Miquel est à voir sur la plateforme de France Télé. Ouais. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, et vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur RFI.fr et sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes comme Pure Radio.